Vous écoutez Radio Show Football, la Bande Baggio, l'émission 100% foot.
Les Brésiliens sont en blanc, à Mehdi Pelé. Tête et but, fabuleux.
On retrait, c'est bien fait.
Allez mon petit bonhomme. Oui.
It comes for Cantona! I don't believe it!
La frappe de Neymar!
Quel but!
Le face-à-face! Ouais! Et voilà! Antoine Griezmann à la 27e minute!
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille!
Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast de la Bande à Baggio. Ce soir, on va débriefer des matchs de Coupe d'Europe. On va parler de Liverpool-PSG, puis de l'exploit de Lyon à Manchester. On parlera aussi de Monaco. Avec moi ce soir, Gabi. Salut Gabi.
Salut Nico et salut à tout le monde.
Eh ben voilà, hein, donc on va parler de ces matchs de Coupe d'Europe. Alors, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. Tu veux qu'on commence par quoi ? On commence par le meilleur ? On finit par le mauvais par la fin ?
Ouais, on va commencer par Lyon, parce que faut les féliciter pour ce qu'ils ont fait. Personne n'y croyait.
Bah, c'est vrai que personne n'y croyait. Et puis finalement, Lyon qui s'est imposé 2-1. Alors un petit peu dans la douleur quand même, hein, parce que c'est vrai que la deuxième période a été assez compliquée. Mais on a vu des Lyonnais qui étaient impliqués. On a vu des joueurs dans le match. Voilà, il y avait personne qui s'en foutait de ce match-là. Et ça a donné que Lyon a ouvert le score par Maxwell Cornet. Et ensuite, c'est Nabil Fekir qui a donné l'avantage, qui a donné le but de 2-0. Même fils de paille aurait pu mettre le 3-0. Malheureusement, le ballon échoue sur le poteau. Hein, et puis, vraiment, il y avait une action formidable juste avant ce poteau. Et il y a eu cette réduction du score de Bernardo Silva qui pouvait prétendre une remontée de Manchester City, mais Lyon a été beaucoup plus, comment on pourrait dire,
efficace.
Voilà, a été efficace. Il y a peut-être une petite part de chance aussi, mais Lyon a été efficace hier. C'est un exploit.
Ouais, c'est un exploit dans la pure tradition lyonnaise, voilà. Parce que Lyon, dans leur histoire, ils sont quand même habitués à certains exploits contre des très gros, dont le Real Madrid de Cristiano, qui venait d'arriver dans ce club. Je sais plus quelle année c'était, ça devait être...
2012, non de,
ouais, j'allais dire 2013, mais écoute, c'est sûrement ça, à peu près. Et sincèrement, même le Real Madrid, tu sais, quand il y avait Juninho et les autres compères, là, en 2007-2008, ils ont souvent battu le Real en phase de groupe.
Oui, c'est vrai.
Même à Bernabéu, ils ont fait des bons résultats avec John Carreau qui avait marqué
un super. Ouais, c'est vrai.
Et je veux dire, Lyon, c'est une équipe qui a pas peur des gros dans leur histoire. Finalement, ils avaient déjà sorti la Lazio il y a très longtemps aussi. Et là, battre Manchester City sur leur terrain pour le premier match, donc bien sûr, tu as des circonstances favorables, comme le peu de public dans le stade. Tu as également des joueurs...
C'est pas le peu de public, parce que le stade était assez plein, mais c'est le manque d'ambiance, quoi. Mais franchement, que ce soit Liverpool ou Manchester City, on s'arrête deux secondes, on va en parler. Mais franchement, maintenant, de regarder un match anglais, tu t'ennuies, parce qu'il n'y a pas d'ambiance.
Bah, moi, de toute manière, en regardant les matchs anglais, j'ai jamais compté vraiment sur l'ambiance, parce qu'on sait que les chants anglais, c'est toujours un peu les mêmes, avec des paroles différentes suivant les clubs. Hein. T'as le Never Walk Alone, bien sûr, à Liverpool.
Bah, c'est magnifique, par contre. Mais voilà, ça s'arrête là, parce qu'après, c'est mort. Et heureusement qu'il y avait les supporters parisiens et les supporters lyonnais qui étaient présents pour mettre un peu d'ambiance. Et gros, gros coup de chapeau aux supporters parisiens, parce que franchement, pendant tout le match, on les écoutait très très bien par rapport... Peut-être que le stade est peut-être un peu plus grand aussi à Manchester City. Il est peut-être moins proche des caméras, donc on écoute peut-être moins les supporters lyonnais. Mais franchement, un gros coup de chapeau aux deux groupes de supporters qui ont mis l'ambiance dans le stade. Et heureusement, parce que franchement... C'était pas terrible, quoi.
Non, c'est vrai que par rapport à Liverpool, où tu pensais que autant de spectateurs puissent être battus par des supporters parisiens au décibel,
c'était 2500 les Parisiens en plus. Ouais. Hein, c'est pas par rapport au stade, c'est pas beaucoup, quoi.
Non, je sais pas quel pourcentage ça fait, faudra faire quelques maths là, mais c'est sincèrement la proportion par rapport à, aux décibels donnés, c'est exceptionnel. Alors peut-être que t'avais des micros placés près des points de corner, je sais pas, mais en tout cas à la télé on entendait que les Parisiens pendant 70-80% du match. Mais pour revenir sur le match de Lyon, voilà, moi je parlais des circonstances favorables dans les dans l'atmosphère, c'est-à-dire que voilà, le stade n'est pas rempli, c'est une équipe qu'on méprise parce que c'est Lyon, et ça fait des années qu'ils sont pas venus en Champions League faire des bons résultats. Leur dernier match important c'était contre la Juve, là je me souviens en phase de groupe il y a 2 ans peut-être, c'est ça je crois.
Oui, ils avaient gagné 1-0 je crois, ou ben, ils étaient à deux doigts de se qualifier en fait, ils avaient pas gagné assez en fait, voilà, c'est ça.
Ouais, quelque chose comme ça. Et enfin, je suis pas un spécialiste après de l'historique en Champions League de Lyon, mais si tu veux, voilà, ils arrivaient à Manchester avec un déficit, comment dire, de considération par rapport à leur histoire actuelle et par les Mancuniens. Et je pense que Guardiola, déjà en mettant certains joueurs sur le terrain qui sont pas forcément tout le temps titulaires en championnat, faire une espèce de turnover sur certaines stars. Bon, t'avais Firmino qui avait un problème à l'œil, qui s'était blessé le match de championnat d'avant, et finalement qui pouvait pas être titulaire. Il y avait alors pour moi, sincèrement, faudra arrêter avec ce joueur. Gabriel Jesus, c'est une arnaque, c'est un escroc ce joueur. Alors il doit avoir un super agent, mais pour moi il vaut même pas un Giroud. Alors Giroud, tu peux dire tout ce que tu veux, mais Giroud, il est beaucoup plus utile sur un terrain que Gabriel Jesus.
C'est ce qu'il vaut sur le terrain, Giroud, de toute façon. Il l'a montré plus d'une fois. Hein.
Ouais. Et donc voilà, t'as Gundogan aussi. Gundogan qui ne sert à rien dans ce match, et qui est énervé, tout le temps en train de parler à l'arbitre, qui est l'arbitre qui aura dû lui mettre un ou deux cartons jaunes pour le calmer, il s'est rien passé. Bah, c'est des trucs que j'ai pas trop compris. T'as Aymeric Laporte en arrière qui était complètement dépassé. Tu vois qu'il a pas encore forcément le niveau équipe de France. Hein. On est en train de le balloter entre l'Espagne et la France pour le moment. Essaye d'avoir le niveau pour jouer en Champions League déjà. Et puis parce qu'il y a pas mal de déboulés de Depay et de Cornet qui sont passés par son côté et il était en difficulté. Hein. T'en as pensé quoi de Laporte ?
Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Bon, on en fait beaucoup sur Laporte parce que depuis le début, Manchester City en première ligue, ils rencontrent pas forcément que des cadors, donc c'est peut-être plus facile. Mais dès qu'il y a des joueurs qui sont entreprenants, ben Laporte, on l'a vu, il se fait facilement dépasser de toute façon.
Si tu le compares à Lucas Hernandez est supérieur. Hein.
C'est pas pareil, c'est pas le même.
C'est pas le même poste non plus. Voilà, c'est ça. Mais on va dire que à la jeunesse, Hernandez est plus mature dans son poste, dans son rôle, même s'il oublie de défendre par certains moments, quoi.
Oui, bien sûr.
Mais moi, j'ai été satisfait par contre par Bernardo Silva qui a été un des seuls présents avec Sterling. Sterling qui a été super dangereux. Voilà, quand tu as certains milieux de terrain lyonnais qui jouaient peut-être le match de leur vie pour leur future carrière, entre guillemets, je pense que tu as beaucoup de Lyonnais qui voulaient se montrer. Hein.
Oui.
J'ai pensé à ça, moi.
Bah, t'en avais déjà parlé lundi, que c'était le moment ou jamais pour certains de se montrer. D'ailleurs, bon, pour moi, il y a Anthony Lopez qui a fait un très bon match aussi. Hein. Il a été là pour arrêter pas mal d'occasions mancuniennes, parce que mine de rien, Manchester City ont eu des occasions. Anthony Lopez a été là pour empêcher. Bon, il s'en est pris un, mais il aurait pu s'en prendre 3 ou 4, quoi. Il a fait, pour moi, il fait partie des Lyonnais les meilleurs avec Fekir sur ce match-là, quoi.
Ouais. C'est vrai que si tu veux parler de l'équipe lyonnaise et des forces de cette équipe, là on a vu un collectif, parce que tu es obligé de faire la comparaison avec ce qui s'est passé avec le Paris Saint-Germain, t'es obligé.
Malheureusement, oui.
Parce que là, l'équipe lyonnaise, elle a porté ses couilles, entre guillemets, hein, pour être vulgaire. Elle a mis tout ce qu'elle avait sur le terrain pour gagner ce match-là, et avec un déficit de talent par rapport à Paris. Et tu vois que les mecs... Tu peux comprendre que là, finalement, Lyon, en championnat, ils font des bons résultats contre Paris, parce que Paris, dans l'envie, ils n'y sont pas, quoi. Et dans les 2-3 dernières années, Lyon a mis énormément en difficulté Paris, surtout au Parc OL. Bon, après, au Parc des Princes, c'est différent. Hein,
c'est pas pareil, mais bon. Ouais. J'ai même vu un Memphis Depay motivé pour ce pour ce match-là, pour dire, tu vois, que des fois il est un peu nonchalant, il est un peu trop perso. Là, il a quand même fait une passe décisive sur le but de Fekir. Bon, il a, ça n'a pas forcément été le meilleur Lyonnais hier, mais il était quand même impliqué aussi dans le match. Donc voilà quoi, c'est ce que t'attends hein, de toute façon d'une équipe française en Ligue des Champions. Hein. Et tant que certains n'auront pas compris ça, ils pourront pas faire le grand pas pour aller plus loin quoi.
Ah oui, l'alchimie entre le talent et le collectif, elle est obligatoire en Champions League. Si t'as pas de mental, comme l'ont dit certains journalistes Charbonnier sur RMC, qui avait dit justement que à un moment donné, quand t'as pas le mental pour jouer une grande équipe en Champions League, tu passeras jamais, peu importe qui tu rencontres. Si l'équipe en face de toi, elle est largement plus préparée mentalement, lui, il sait de quoi il parle, parce qu'avec Auxerre, combien d'années ils ont joué la Champions League et la Coupe UEFA, en jouant contre l'Ajax d'Amsterdam, contre Dortmund, ils n'avaient pas l'effectif que avaient ces équipes-là. Et à chaque fois, ils ont fait des bons résultats, ou alors ils n'ont pas été ridicules dans la défaite.
Ouais.
Donc là, pareil, ils ont été ridicules. Ah bah,
là, c'était vérité. Ridicule, il n'y a pas d'autre mot. Hein. De toute façon, on va en parler tout à l'heure, mais c'était ridicule. Mais sinon, en revenant à Lyon, et toi, c'est qui le joueur qui t'a le plus marqué hier pour les Lyonnais?
Bah ouais, pour faire simple, je pense que Fekir, s'il n'est pas dans ce match-là, le match est différent.
Oui.
Il y a peut-être pas la victoire au bout, et il arrive à conclure une action finalement qui doit être conclue à ce moment-là du match. Mmh. Et il a été dans le money time, il a été super bon, Fekir. C'est là qu'on voit les grands joueurs. Comme quand tu vois Messi terminer les matchs à 100 à l'heure avec le Barça pour enterrer l'équipe en face. Là, Fekir, il a joué son rôle.
Comme ils ont fait mardi, c'était face, je m'en rappelle plus contre qui, mais il a marqué 3 buts, quoi.
ouais, exactement, voilà. Et après, c'est sûr qu'au milieu de terrain, t'as des espoirs comme Ndombele.
Ndombele, il a fait un très bon match aussi, hein, ça c'est sûr. Ouais.
Qui risque sûrement de faire parler d'eux dans le futur. Alors,
Maxwell Cornet qui a fait un bon match aussi, hein, qui a marqué et puis qui a fait un très bon match. Non, c'est vraiment. En plus, il était à deux doigts de s'en aller, hein, Maxwell Cornet, cet été. Hein.
Ah, il a lancé un message d'ailleurs à l'interview, t'as vu, à la fin du match.
Ah, j'ai pas fait attention, non.
C'était sur je sais plus quelle chaîne, bon, ça devait être sur RMC Sport, hein, vu que.
Ouais, c'était sur ça, ouais.
Ça passe que sur cette chaîne. Avec l'intervieweur, il a dit qu'il voulait montrer à tout le monde qu'il était pas prêt de partir et qu'il avait envie de jouer, et que voilà. Alors que les dirigeants lyonnais, à un moment donné, voulaient se séparer de lui.
Ouais.
C'est un petit message lancé, dans les coulisses, quoi, mais c'est de bon augure, je pense, pour la suite par rapport au championnat, parce que comme tu dis, ils jouent Marseille dimanche, et je pense qu'il y aura un match entre ces deux équipes.
Ah ben moi je m'attends à un match maintenant beaucoup plus difficile, parce que voilà, une victoire comme ça contre un gros, ça peut te motiver, hein. Puis comme j'ai écrit ce matin sur la page, ça peut relancer la machine après, hein.
Ouais,
ça suffit de pas grand chose, hein, des fois une victoire de grâce au collectif, et puis après les victoires peuvent s'enchaîner petit à petit, quoi.
Ah, tout à fait, ouais. Et puis là, Genesio, j'ai l'impression qu'il était en train de jouer une partie de sa carrière à Lyon sur l'année, parce que il fait un très mauvais début de championnat, et il s'est dit, ouais, je pense pas qu'il s'est dit on va jouer qui tout double, mais il s'est dit on va changer complètement la façon de jouer et la façon de procéder en contre, etc. Et il y avait énormément d'envie sur le terrain. Je sais pas exactement. Moi, j'aurais adoré entendre le discours avant le match, surtout. Mmh. Et surtout que le président Olas a fait le déplacement avec l'équipe. J'aurais adoré savoir ce que le président a dit. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas plus. On n'est pas plus dans les coulisses de cette équipe-là comme on est dans les coulisses d'un Paris ou d'un Marseille. Sur les médias. Les médias, ils prennent pas assez en valeur. En même temps, tu me diras, avant ce match-là, on donnait pas cher de la peau des Lyonnais.
Il y en a pas beaucoup qui auraient donné la victoire des Lyonnais, hein, ça c'est sûr.
Mais ça aurait été intéressant de savoir comment ils ont préparé le match, en mode guerrier ou en mode... Moi, je pense que le mode guerrier, c'était le seul espoir hein, par rapport à ce début de championnat moyen.
Non, puis c'est vrai, on a peu vu d'individualité comme il y a l'habitude d'y avoir à Lyon. Un peu Fekir au début où il commençait un petit peu à aller tout seul, vouloir jouer seul, mais il a vu que ça ne marchait pas. Puis après, ça s'est mis jouer vraiment collectif. Et quand Lyon arrive à jouer en collectif, mais ça peut être beau. À un moment, ils ont fait c'était en seconde période, je me souviens. Ils ont fait toute une série de passes. C'était vraiment beau à voir, quoi. C'était bien fait, c'était bien exécuté. Bon, il n'y a pas eu le but après parce qu'ils se sont fait contrer juste avant la frappe du joueur. Mais c'est intéressant de voir Lyon comme ça. Et je suis sûr que si Lyon joue comme ça en championnat, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Hein.
Ouais, comme tu dis. Hein. Et c'est sûr que tu as certains joueurs qui vont jouer aussi par rapport à l'adversaire. Tu as l'impression, voilà, comme Depay surtout, qui va plus faire des grands matchs comme Balotelli à Nice contre des grosses équipes.
Voilà, c'est un peu le même... Je trouve que Depay, c'est un petit peu le même profil que Balotelli, même si il est quand même beaucoup plus souvent présent dans l'effectif lyonnais que Balotelli. Tu vois, c'est un peu le même truc, quoi. Il doit choisir certains matchs, quoi. Mais quand il peut être brillant, il le sera brillant de toute façon.
Et toi, est-ce que tu penses que Guardiola dans les tribunes, ça a eu un impact sur la tactique continue durant le match?
Bah, c'est possible, hein, c'est possible, hein, parce que bon, après c'est Mikel Arteta, l'ancien Parisien, là, qui l'a remplacé directement pour le match. Alors est-ce que il y a peut-être pas le même entrain, il y a peut-être pas la même façon de parler, la même façon de motiver les joueurs? Donc, tu sais, il ne suffit de pas grand-chose des fois pour motiver les joueurs. Guardiola, je suis sûr que lui, il a les mots qu'il faut. Mais Arteta, il est encore novice dans ce métier d'entraîneur. Et est-ce qu'il a réussi à motiver les joueurs? Ça, surtout qu'il y a peut-être des fortes têtes. Et puis, quand tu n'as pas l'habitude, tu peux toujours essayer. Ça ne marchera pas de toute façon.
Ouais, et puis certains gens peut-être qui n'ont pas suivi les consignes en se disant Guardiola est pas là, je vais essayer de faire ce que je veux un peu.
Voilà, et puis c'est Lyon en face. Lyon, ils sont peut-être pas forcément. Enfin, de toute façon, comme ils ont l'habitude de mettre des pilules en championnat ou de gagner tout le temps, ils se sont dit que c'était presque dans la poche de toute façon. Pour eux, je pense que là, ce groupe-là, il est facile. Mais je pense que maintenant, avec la défaite de Lyon, va falloir que Manchester City se remette en question quand même, quoi.
Ouais, là, ils sont pratiquement obligés de gagner le prochain match. Déjà, ouais. La première place, elle est remise en cause un tout petit peu, vu que voilà, le classement final, il va être un peu...
Alors maintenant, c'est différent. À Lyon de continuer sur sa lancée et de ne pas faire n'importe quoi. Parce que j'ai regardé un tout petit peu Shakhtar contre Hoffenheim. C'est faisable pour Lyon. Hein. S'ils sont aussi sérieux que contre Manchester City, il n'y a pas de raison qu'ils ne gagnent pas contre les deux. Hein.
Ouais, je pense que là, c'est vrai que comparé à ce que avait fait Marseille à Liverpool, le groupe est plus abordable pour le reste pour Lyon. Je pense pas que ça soit du style. On a gagné à Man City et puis les autres matchs, du coup, on va les prendre différemment.
Voilà.
Et ça sera pas aussi difficile que Marseille, je pense. Il y aura peut-être un point difficile à prendre à Hoffenheim à l'extérieur, mais normalement à domicile Lyon doit gagner tous ses matchs.
Ah bah, ils doivent gagner tous ses matchs, ça c'est sûr. Ouais.
Ouais. Et moi je suis assez confiant pour les huitièmes finalement. Là je vois bien Lyon finalement se qualifier. Alors
s'ils jouent comme ils ont joué hier, de toute façon, je peux pas dire que les huitièmes sont dans la poche, mais Lyon a un grand pied pour les huitièmes de finale, de toute façon. Hein.
Ouais. Parce que même après, s'ils perdent chez eux, il faut quand même qu'ils perdent par plus de 2 buts d'écart pour terminer deuxième. Si Man City et Lyon finissent ex aequo à la fin, là, il va falloir que Man City gagne 2-0 à Lyon, ou voilà, parce que le goal à Verrage compte. Finalement, c'est un très bon point pris contre le favori du groupe. Et ça serait vraiment une grosse... Moi, je compare un peu, enfin un tout petit peu, Man City à Paris Saint-Germain dans le... Comment dire, la physionomie de voir comment fabriquer une équipe pour gagner une Champions League. C'est-à-dire que c'est des équipes qui empilent des stars. Et à la fin, bah, tu te retrouves avec des joueurs qui n'arrivent pas forcément à jouer ensemble, sauf au bout de 5-6 ans, ce qui est un peu normal. Parce que...
Bah oui, au bout d'un moment.
Au bout d'un moment, il faut que ça marche quand même. Mais les deux premières années, bah, ça marche pas forcément bien, hein, surtout en Europe, où il faut avoir un mental d'acier. Mais ça, c'est un mal anglais que les Anglais avaient à une époque, c'est-à-dire que chez eux, sur leur île, ils étaient super forts, mais à l'extérieur, ils pouvaient perdre en Coupe d'Europe. Et,
ouais, c'est ça.
Combien de fois t'as vu des matchs retournés au niveau du score à Liverpool ou à Arsenal à l'époque des années 80-90, mmh. Mais à l'extérieur, ils avaient vraiment du mal à se déplacer.
Ils voyageaient mal, ouais, c'est sûr.
Ouais. Donc voilà,
enfin voilà, on passe un petit coucou à Manon, hein, qui doit être aux anges.
Ouais, je ouais, pense aussi. Ouais.
Je pense, hein. Voilà. Bon, on va parler maintenant un petit peu des choses qui font un peu moins sourire. On va d'abord parler de Monaco, qui a perdu contre l'Atlético Madrid 2-1. Ça s'est tout joué en première période. Et pourtant Monaco va vers le score grâce à Grand Cyr, puis malheureusement Diego Costa qui égalise, et puis Jiménez juste avant la mi-temps qui donne l'avantage, et ce sera un avantage acquis pour l'Atlético Madrid. Nouvelle défaite de Monaco qui va très mal en ce moment. Moi j'ai pas regardé le match, en fait, j'ai même pas vu les buts. Je peux pas dire grand chose dessus, malheureusement. Ouais. Mais si toi t'as quelque chose, t'as quelque chose à dire.
Ouais, Joseph, il avait raison sur un point. C'est-à-dire que comment dire, à l'Atlético Madrid en championnat, ça marche pas très fort, mais c'est assez poussif. Et finalement, sur ce match contre Monaco, tu vois que c'est l'AS Monaco qui ouvre le score et l'Atlético qui sait pas trop mettre un pied devant l'autre en début de match, qui a du mal à se positionner, qui avance tatillon, qui connaît pas les joueurs en face. Et finalement, Monaco, avec leur faiblesse défensive en première période et en deuxième, ils se font marcher dessus et remonter au score tout doucement. Mais je veux dire, si Monaco avait un ou deux joueurs de plus confirmés au milieu de terrain ou en attaque, je suis même pas certain que l'Atlético aurait réussi à gagner ce match-là, parce que c'est une équipe vraiment trop défensive, hein, l'Atlético, sur plein de points. Tu vois que Diego Costa, il marque et Jiménez sur un corner après, mais c'est une équipe assez discrète dans le jeu, ouais. Qui propose pas grand-chose, et c'est assez triste à voir jouer, hein. Moi, j'ai vu un long format en résumé, mais je pense que Monaco, franchement, ils ont raté l'occasion, peut-être, avec plus d'envie et un ou deux joueurs plus forts en attaque. Jovetic, s'il avait été là, et si Golovin avait été là, je me pose des questions. Je me demande vraiment si Monaco n'avait pas un coup à jouer chez eux contre l'Atlético. Malheureusement, ils avaient trop de blessés et d'absents, Monaco. Voilà, moi, après, je veux pas dire d'autres choses en plus sur ce match, vu que c'était le match outsider de la soirée.
Bah voilà, oui, c'est sûr.
Liverpool, ouais. Et PSG en face, quoi. Voilà.
En espérant pour Monaco qu'ils fassent quand même mieux que l'année dernière et qu'ils essayent d'obtenir soit la deuxième, à la rigueur la troisième place pour jouer en Europa League. Mais essayer de faire mieux que de pas terminer dernier, quoi, parce que franchement ce serait catastrophique de terminer dernier encore de la Ligue des Champions, quoi.
Là,
ça arrangerait pas le moral, quoi. Je pense.
Tu vas jouer à Dortmund après, des choses comme ça.
C'est compliqué, il est compliqué quand même ce groupe là. Hein.
Tu peux faire 0 points ou 1 point à la fin des groupes, quoi.
Parce que Dortmund, ils ont gagné que 1-0 contre Bruges. Hein.
Ouais, mais c'est comme l'Étoile Rouge de Belgrade, hein. Tu sais, on va y venir avec Paris, ouais. Mais l'Étoile Rouge de Belgrade, c'est une équipe qui défend énormément. Et quand tu sais que les ex-Yougoslaves, ils sont très forts défensivement pour tenir un score, ils vont rien lâcher à Paris, hein.
D'ailleurs, Naples s'est plaint. Ouais. Bah, c'est l'entraîneur de Naples, il s'est plaint que les joueurs de Belgrade jouaient que défensif et faisaient exprès de tomber dès qu'il y avait contact.
Oui. Oh.
Venant d'un Italien, ouais. Ça fait quand même un peu tâche.
Mais ils jouent comme nous, qu'est-ce qu'ils font? Faut siffler.
Non, mais bon. C'est ça m'a fait rire quand même, mais bon. Bon, écoute, venons-en, hein. Faut parler des choses qui fâchent. On va arriver à ce groupe C.
Est-ce que ça fâche vraiment?
Bah, je sais pas. Bah, pas forcément, parce que c'est. Tu peux te dire que c'est prévisible, en fait. Voilà. Donc, l'Étoile Rouge de Belgrade et Naples, ils ont fait 0-0. Et donc, on en arrive à ce Liverpool PSG. Donc, défaite de Paris Saint-Germain, 3-2. Il y a eu des choses lamentables. Et pour moi, la chose lamentable, c'est Neymar. Qu'est-ce que Neymar a fait mardi? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien fait du tout. Ouais. Il a voulu jouer seul, ou peut-être avec Mbappé. Cavani, encore une fois, Et ben, on est en Ligue des Champions. Cavani, il a pas un ballon, il n'arrive pas à s'exprimer comme il peut faire en Ligue 1. C'est agaçant, c'est pas possible. Je sais pas, mais Neymar, franchement, mais va falloir faire quelque chose. Faut le remettre en question. Attends, ça va pas pouvoir durer longtemps comme ça.
Et déjà, est-ce que Paris a trouvé le coach pour remettre en place les stars quand ça va pas? Alors là, c'est un match de Champions League, c'est pas un match de championnat de Ligue 1. Tu vois sur le terrain Bernat qui donne deux buts clairement à Liverpool. Il donne deux buts à Liverpool, c'est-à-dire que pendant 20 minutes sur son côté, tout le monde déboule, tout le monde centre. Il y a de la pression incroyable de la part des ailiers de Liverpool. Tourelle, il fait rien. Ok, tu fais rien, il y a pas de souci. Par contre, moi, je suis un jeune sur le banc de touche. J'ai fait un bon début de saison et je vois ce qui se passe sur le terrain. Je dis, mais attends, il se fout de ma gueule. Il continue à laisser ce mec-là sur le terrain. On est en train de perdre. Il fait rien. Ok, après, t'as Neymar. Pendant 70 minutes, il marche. Il fait que marcher. Il s'est pris un tampon à la 30e minute. Je sais pas si tu t'en souviens du tampon qu'il se prend sur la ligne de touche en bas de l'écran.
Il se
prend un tampon monumental. Il y a faute pour lui. Il disparaît du match. Ouais. Il ne fait plus rien, comme s'il voulait plus aller au contact, en se disant moi c'est trop dur pour moi, j'ai plus envie de jouer. C'est-à-dire que tu t'imagines un mec comme Messi qui dit oh non mais moi je préfère pas me blesser, l'équipe c'est pas grave, voilà, il pense qu'à lui en fait Neymar, il pense pas à l'équipe, il veut pas se battre. Un Argentin je pense dans sa mentalité comme Gabriel Anse ou un Batistuta, le mec. Il retourne au tampon, il va lui en foutre une autre sur l'autre.
Bien sûr, ça c'est obligé ça.
Neymar, non mais il est dans un confort. De toute façon, on en a parlé beaucoup dans les émissions d'avant. Neymar et d'autres joueurs sont dans un confort qui prépare pas un joueur à la haute compétition. C'est pas possible, tu peux pas gagner une Champions League. Et moi, j'en reviens toujours au fait que on en est à un point. Je pense que Paris, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont abandonné l'idée de gagner la Champions League un jour et font du marketing et Paris Saint-Germain une vitrine pour les sponsors, pour le Qatar 2022.
Pour l'étranger, voilà, ouais, c'est ça.
Et je pense que, tu vois, ce qu'a dit le journaliste de The Guardian en Angleterre après le match, il y a une grosse part de vrai, 90% de vrai, il y a peut-être 10% de méchanceté et de malhonnêteté, mais 90% de la chose, des choses qui sont dites dans ce journal sont vraies. Et même, je pense que certains supporters parisiens qui veulent se voiler la face sur l'avenir de cette équipe, au final, ils vont arriver par se dire que c'est peut-être vrai, que finalement, Nasser et les autres veulent faire du PSG un sponsor pour le Qatar, et à la fin, c'est pas une équipe collective, c'est pas une équipe préparée pour gagner une compétition. Tu peux même pas les comparer, je veux dire, à l'époque des Bulls de Jordan. Tu peux pas les comparer non plus.
Non, c'est autre chose.
Au grand Messi, au grand Barça de 2008. Je sais pas à qui tu peux les comparer exactement. Si ça prend le chemin de Manchester City ou de Chelsea en 2005, par là. Ils ont mis 10 ans à gagner une Champions League pratiquement. Quand les gens ont commencé à investir dans le club. Donc s'il va falloir attendre, on va dire 10 ans à partir de 2022,
quoi.
Bah, 2022, ils ont bien fait les comptes.
Ils
ont bien fait les comptes, n'empêche. Mais non, pour revenir sur ce match, regarde, t'as des joueurs qui sont pas prêts physiquement, qui sont alignés sur le terrain. Et même la passe à la fin du match où Neymar, tu vois que c'est le défenseur qui la donne à Mbappé, c'est même pas Neymar. Neymar, ouais, il s'enfonce.
Il voulait marquer Neymar de toute façon.
Ouais, donc même ça, il l'a raté, je veux dire. Là, c'est même pas une passe décisive qu'il fait à Mbappé. Mbappé, il fout un pointu dans les filets, il cherche pas à comprendre, il se dit là, faut tirer là. Mais au moins, il a eu l'intelligence de tirer. Je pense que Neymar, il était parti pour dribbler le gardien et le poteau de but.
Faire son truc, dribbler, puis aller jusqu'au but. Pousser le ballon de la tête, je sais pas, mais bon.
Voilà, est-ce que toi, sincèrement, t'as envie de t'énerver finalement parce que c'était prévisible?
Je sais pas, t'attends toujours quand même que Paris réagisse contre une grosse équipe, quoi. Quand tu vois que Meunier réussit à revenir à 2-1, il marque un superbe but en plus.
Oui.
Tu te dis, pourquoi pas, tu vois, là, ça peut donner un petit peu de peps aux Parisiens, et puis finalement, tu te rends compte que ça a rien donné. Et surtout, Cavani, il a aucun ballon. Putain, mais Cavani, il a touché combien de ballons mardi? Il en a touché très peu, quoi.
J'ai vu des statistiques aujourd'hui entre les avec les échanges entre les trois attaquants, c'est-à-dire que Cavani, il a eu 4 passes durant le match de Neymar, il en a eu 2 avec Mbappé. Et inversement, si tu veux, c'est proportionnel aux passes reçues. Donc, il y a eu 2-3 passes entre les attaquants, mais c'est trop peu, je veux dire, pour une équipe qui doit faire des centres, déborder. T'as l'impression que là, la tactique de Tourelle, c'était faire monter les milieux de terrain sur les côtés, Di Maria et Bernat pratiquement quoi, qui était pratiquement au milieu parce qu'ils défendaient pas, hein, faut dire la vérité.
Oui.
Les faire monter et centrer, sauf que ce qui se passait, c'est qu'avec les trois attaquants, ils jouaient dans l'entonnoir et à chaque fois le ballon était remis au centre dans l'axe et il y avait aucun centre qui arrivait. Tous les ballons c'était des passes décisives au milieu de terrain et il y avait jamais des débordements. J'ai pas vu de débordement, j'ai pas vu de centre. Alors heureusement que sur ce match, Thiago Silva et Areola ont été bons, parce que le 4-2 ou le 5-2, il peut être.
Ouais, c'est possible, là, ça aurait pu.
Possible. Ouais.
Et... Areola, il a fait un bon match quand même. Hein. Il a pas été.
Non.
Bah, malheureusement, il a pas été vraiment aidé, quoi. C'est ça le souci. Donc non, mais cette année, je pense que va falloir garder Areola au but, hein, parce que je suis même pas sûr qu'avec Buffon, Paris aurait gagné de toute façon.
Non, bah c'est pas lui qui aurait été centré pour Cavani, hein. Parce que moi, un truc que je comprendrai jamais, c'est que tu sais que Cavani, c'est les meilleurs buteurs de l'histoire du Paris Saint-Germain.
Ah oui.
C'est un mec de la tête, il est tellement fort qu'il peut te mettre une tête piquée, un peu comme Cristiano qui monte super haut, etc. Il est super agile de la tête. Pourquoi tu fais pas des, tu joues pas ton jeu, tu bases pas ton jeu sur les centres? Pourquoi tu fais ça? Tu fais pas ça?
Il y a un souci, de toute façon.
Pourquoi? Je veux dire, Tourelle, il a pas basé son jeu sur ça. Est-ce que lui, il a regardé les matchs du PSG avant d'arriver? Quand en conférence de presse, il dit « Moi, j'aurais pas signé au Paris Saint-Germain si on m'avait mis la pression pour gagner la Ligue des Champions », qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et quand t'entends Thiago Silva, à la fin du match, qui dit « Faudra demander à Antero Henrique, le directeur sportif, pourquoi on n'a pas de milieu de terrain cette année ?» Enfin, voilà, des trucs comme ça, c'est... Tu vois que dans le groupe, il y a des problèmes. Et moi, je pense qu'un jour ou l'autre, l'histoire...
Ça va éclater.
Voilà. Ouais. Entre Cavani et Neymar, ça va
repéter. Parce que, regarde, en championnat, tu te dis, ouais, finalement, ça se passe bien. Les joueurs, ils se tapent dans la main quand ils ont marqué. Ils sont contents d'avoir marqué. Puis finalement, quand tu regardes les matchs de Ligue des Champions, mais c'est tout le contraire de ce que tu vois en Ligue 1, quoi. Mais c'est ahurissant, quoi.
Tu vois de l'énervement, tu vois de la pression dans les yeux, tu vois Thiago Silva, personne ne l'écoute, alors que c'est le capitaine. Les mecs, ils sont sur les côtés, au milieu de terrain, ils font ce qu'ils veulent. Rabiot, il est gentil, mais il tourne en rond, finalement. C'est un mec qui fait des passes latérales, qui fait jamais des passes vers l'avant. Ça, c'est un gros problème aussi. Après, bien sûr, Verratti n'était pas là. Ça, c'est un point fort. Et voilà, on l'avait dit au début de saison, Paris actuellement, milieu de terrain, il n'y a pas de banc de touche. T'as un mec qui se blesse, il n'y a personne pour remplacer. Tu vas pas faire rentrer Nkunku au milieu de terrain pour remplacer Verratti, quoi.
Ouais, bien sûr, ouais.
Donc là, Paris, ils sont arrivés à un point, je pense, où il va falloir qu'ils se remontent les bretelles.
Qu'ils se remettent en question, parce que je veux dire que contre à l'Étoile Rouge de Belgrade, c'est pas encore gagné, hein.
Non, surtout là-bas.
Surtout là-bas, hein.
Surtout là-bas.
Même Naples. Hein.
Ah ouais,
ils peuvent prendre des points à domicile, mais à l'extérieur, il va falloir être vigilant. Hein.
Bah, tu peux te retrouver avec une équipe qui joue sa qualif la dernière journée, comme l'Atlético Madrid, et il va peut-être manquer ce but qui va faire que tu te qualifies.
Oh, t'imagines Paris qui se qualifie même pas pour les huitièmes, là, ce serait une catastrophe, là, par contre. Hein.
Ça serait une catastrophe, peut-être, dans l'esprit de certains supporters, mais...
Ouais. Après, moi, c'est logique, dire, mais...
Nous, on en a parlé beaucoup, hein, on en a parlé beaucoup de ça. Moi, j'ai dit, depuis le début de saison, où on a vu le recrutement, moi, j'ai toujours dit, Paris est moins fort que l'année dernière. Et l'année dernière, ils étaient encore moins forts que l'année d'avant. C'est pas parce que t'as acheté Neymar que ça va combler tous les manques. Quand tu vois qu'il n'avait pas joué pendant 70% du match, et Paris, ils ont joué à 7. Il y avait 3 attaquants qui faisaient rien. Ils défendaient pas. Ils avaient pas de ballon, mais ça les dérangeait pas, ils attendaient. Moi, qu'est-ce que tu veux? Si le mec sur le banc de touche, mis à part faire la fête dans les vestiaires ou s'arroser avec du champagne, il fait rien d'autre. Être un pote avec les joueurs, c'est pas bon. Ça a toujours été mauvais. Est-ce que t'as déjà vu dans l'histoire Ancelotti, Capello, Mourinho, pote avec les joueurs? Non! Les mecs, ils ont peur de lui! Ils ont peur de lui.
En fait, ils peuvent devenir amis, mais une fois que le joueur s'est barré de l'équipe, quoi. Tu vois, Drogba et Mourinho, ils s'entendent pas trop mal ensemble, mais une fois qu'ils sont partis, fois que chacun est parti à droite à gauche, quoi, tu vois.
Tous ces coachs, ils sont respectés et on a peur de. C'est-à-dire que on a peur de faire le mauvais geste pendant le match ou pendant l'entraînement pour pas être aligné le dimanche. Et, voilà. Et des mecs comme Capello, Mourinho, y en a d'autres encore que j'oublie sûrement, hein, mais même Guardiola, hein, Guardiola, il est hyper strict, hein, sur plein de trucs. Je pense qu'il va, il va changer 50% de l'équipe dimanche prochain, hein, championnat. Tu verras qu'il y a des joueurs, il y a des gens qui vont être sanctionnés, hein, par rapport à ce qu'ils ont fait.
Ah bah c'est possible. Ouais.
Et les joueurs ont peur de ces mecs-là. Là, tu vois Tourelle toujours en train de taper dans la main, s'amuser et tout. Ok, c'est bien de créer une relation de confiance. Mais si tu commences comme ça dès les premiers matchs et que tu mets pas de barrière, je veux dire, c'est comme quand tu es au travail, hein, si tu es pote avec ton chef, le chef il se fera jamais respecter à un moment donné. Hein,
ouais, c'est vrai.
Donc, moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les matchs se ressemblent, les années se ressemblent, et je crois qu'à un moment donné, Paris, bah, il va falloir peut-être attendre encore une nouvelle fois l'année prochaine un nouveau recrutement pour voir ce qui se passe. Mais l'équipe actuelle. Pour moi, si elle tombe contre le Barça ou le Real ou Dortmund,
ça se fait défoncer.
Il passe pas les huitièmes encore.
Hein. Ah bah bien sûr, c'est sûr.
Enfin voilà.
Ouais, c'est compliqué quand même, hein, parce que t'attends toujours un petit peu, puis tu te rends compte qu'encore une fois contre une grosse équipe, bah Paris, ils y arrivent pas, quoi. C'est dingue, quoi. Mais bon, tu veux rajouter quelque chose d'autre dessus?
Bah, il aurait peut-être fallu faire jouer les supporters durant ce match.
Ouais, c'est sûr. Non, mais franchement, un gros coup de chapeau aux supporters, hein, vraiment, qui ont été. Même moi, qui suis pas fan de Paris, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant d'écouter, même du début à la fin, même à 3-1, ils étaient à 3-2, ils étaient en train de, ils étaient en train de chanter encore. Non, franchement, c'est bien d'entendre un petit peu ça, parce que. Un stade vide, enfin un stade plein sans ambiance, c'est pas du foot,
c'est
quoi.
Pas pareil.
Enfin,
ouais.
Pas pareil.
Et j'ai trouvé l'arbitre bon aussi finalement.
Ouais. Ah ouais.
Je crois que c'était l'arbitre de la finale de la Coupe du Monde d'ailleurs.
Le Turc là, oui.
Ouais. Donc non, c'est un arbitre confirmé. D'ailleurs, il a annulé un but pour Liverpool parce que il y a eu une grosse faute qui avait pas été signalée par l'arbitre, le cinquième arbitre, ni l'arbitre de touche. Au tout début là, et il y a eu un sacré coup dans l'entrejambe d'Areola par c'est Sturridge qui met un sacré coup, et Mohamed Salah qui était passé derrière à mettre le ballon au fond des filets. Et d'ailleurs, c'est vraiment bien de la part d'un arbitre pour une fois de revenir, d'annuler un but contre une forte équipe comme ça. J'ai trouvé vraiment la prestation de l'arbitre assez sympatoche pour arbitrer deux grandes équipes sur le terrain, avec des forces égaux, je veux dire.
Ouais. Ouais. Bah, de toute façon, voilà, hein, on peut pas rajouter grand-chose de plus. On attend de voir Paris plus conquérant pour les prochains matchs. Bon, à domicile, je pense qu'ils peuvent réussir à faire des résultats, mais c'est, comme je le répète, à l'extérieur, ça risque d'être compliqué.
Mais Mbappé, toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu crois que, comme certains disent, il a pris la grossette après la Coupe du Monde? Moi, je pense que c'est une erreur de jeunesse d'avoir voulu faire un petit pont pour relancer au lieu de dégager le ballon à la dernière minute ou là où on se
Ah oui, non, mais c'est sûr, c'est une connerie qu'il a faite. On va dire que là, il a le melon, peut-être à certains. Je sais pas. Non, mais c'est un gars qui n'est pas pareil que les autres. C'est un gamin, il est pas comme les autres gamins de son âge de toute façon. Donc après, c'est pas facile d'évaluer s'il a le boulard ou s'il est sérieux. Mais il a encore beaucoup de choses à apprendre. Hein. Faut pas croire que c'est pas parce qu'il est champion du monde que c'est un bon joueur qu'il va pas faire d'erreur. Bien au contraire, on l'a vu, hein, l'erreur qu'il a faite. Hein. Je pense qu'il aurait joué plus simplement, on en restait à 2-2. Quoi.
Ouais, et c'était pas mérité non plus pour Paris. Mmh. Donc, finalement, moi je pense que justice est faite pour Liverpool et ils gagnent le match parce qu'ils l'ont mérité. Le 2-2, ça aurait été dur pour eux mentalement. Enfin voilà.
Voilà. Bon, je vais juste rajouter un petit coup de gueule par rapport à RMC Sport quand même, parce que c'est bien beau de vouloir acheter tout ce qui est Ligue des Champions et trucs comme ça, mais donc il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu des soucis de retransmission. Hein, par exemple, ça, je sais pas, la retransmission qui marchait pas, il y a eu des gros bugs, voilà. Alors pas pour ceux qui étaient sur Box, mais pour ceux qui avaient le, enfin qui étaient pas abonnés SFR en fait. Tu vois, ouais, y en a, tu pouvais acheter en digital, voilà. Il y en a beaucoup, qui ont eu de problèmes. Il y a eu 200 000 abonnés en un jour, donc je pense qu'il y a peut-être eu un bug là-dessus, hein, pour mettre tous les gens en même temps, enfin tu sais, connecter les gens en même temps. Et puis surtout, c'est que tu te fais chier pendant les matchs, quoi. Je suis désolé de dire ça, mais les commentateurs sont pas.
C'est qui les commentateurs finalement?
Alors c'est Luigi Collange et puis Jérôme Roten. C'était pour les matchs de Paris, et puis hier les matchs de Lyon. Après pour les autres rencontres, j'ai pas vu, mais j'ai regardé aussi Inter Milan Tottenham. Oh là là, tu t'ennuies, quoi. C'est pas intéressant, c'est pas vivant comme match.
C'est des nouveaux commentateurs dans la
profession. Bah voilà, je pense que c'est tous des nouveaux commentateurs, hein. Après sur le plateau, t'avais c'est le mec qui, un des gars qui était sur BFM TV avant, ouais. La nuit et le soir. Et lui, c'est pareil, mais t'as l'impression qu'il est sur BFM TV en train d'annoncer une mauvaise nouvelle quand il parle, quoi. Tu vois, c'est pas joyeux, quoi. C'est.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est pas Margoton, quoi.
Voilà, c'est pas Margoton. Alors, bon, faut être peut-être un petit peu indulgent aussi. C'est le RMC Sport, ça existe depuis très peu de temps. Alors, bon, c'est faire sport avant. Mais franchement, si ça continue comme ça, les gens ils vont préférer regarder du streaming, regarder les matchs comme toi tu fais en espagnol ou en anglais, parce que franchement c'était trop monotone, quoi. T'as envie de voir un match vivant quand même, t'as envie de ressentir l'émotion, quoi.
Ah mais de toute manière, quand une chaîne se lance comme ça dans une grande compétition et qu'ils ont raté dès les premiers jours. Je pense que les abonnements vont pas suivre après. Moi, j'aimerais beaucoup que plein de gens les boycottent, qu'ils soient obligés de revendre leur part à Canal+ et Bein. Bah
ça y est, ils ont été obligés. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont quand même vendu une part à Canal, et normalement, dans la prochaine vente, enfin, les prochaines offres de Canal, pour 40 euros, t'auras toutes les chaînes de sport, en fait. T'auras Canal, Bein et puis RMC Sport, en fait.
D'accord.
Mais c'est 40 euros par mois quand même, quoi. C'est pas donné.
Bah, c'est certain que, ouais, là, pour l'instant, en étant abonné Canal+, j'ai 15 euros Bein et Eurosport. Enfin, j'ai le bouquet sport pour 15 voilà. euros, quoi. Donc, je me vois mal rajouter 25 euros pour avoir RMC Sport.
C'est sûr.
Surtout qu'il n'y a que la Champions League chez eux qui m'intéresse finalement. Parce que regardez le basket League, de Ligue ouais. 2.
C'est ça, ouais. Non, c'est clair.
Les c'est fléchettes.
Clair. Bah, ça va faire que dans peu de temps, ils vont revendre tout parce que ça va pas marcher, quoi. C'est tout.
Ils seront obligés, sinon ils seront en déficit par rapport à l'investissement de 1 milliard d'euros, je sais pas quoi. Là. Je sais pas si c'est en dollars ou.
Ah, j'en sais rien, mais bon. Bon, on est loin des années 90 où on avait la Ligue des Champions sur TF1, quoi. Mais bon, avec voilà, c'est une autre époque, ça.
Avec Christian Jean-Pierre et FCUP Fermin, qui avaient le débrief du soir.
Voilà, c'est ça. Avec Giroud aussi, hein, en invité exceptionnel. Ouais.
Et Auxerre qui se déplaçait au Spartak Moscou.
C'est ça. ouais. Enfin voilà, bah écoute, merci d'avoir participé à ce podcast. On se retrouve, on se retrouvera sûrement lundi pour la suite de la Ligue 1, avec notamment le choc entre Lyon et Marseille. Paris, qui vont où, ils reçoivent qui?
Alors, j'ai pas regardé là, je sais plus.
Oui, ça se joue le 23, donc dimanche, et ce sera à Rennes. Voilà, ils jouent dimanche. Pour dire, bah oui, il va y avoir deux journées de Ligue 1. Trois même, il y aura le 23, le 26 et le 29. Donc voilà, la semaine prochaine, c'est vraiment journée spéciale Ligue 1, quoi.
Tous les trois jours, il y a un match, ça va être
voilà,
compliqué.
Voilà, c'est
là.
Ça.
On est en train de martyriser les équipes quand on joue la Champions League.
C'est ça, exactement. Là, il va falloir faire des remplacements, il va falloir. Voilà. Ouais. C'est sûr. Bah écoute, merci d'avoir participé, puis à très bientôt pour un nouveau podcast alors.
Bah merci à toi, ouais, bonne fin de soirée à tous. Salut.
Salut.